voix nue par Céline Duchesnay. Toute cette semaine, nous sommes avec Claudie Hunsinger, artiste plasticienne et romancière. Premier épisode, Les enfants terribles. Vous n'avez pas votre pareil pour décrire la naissance d'un essaim d'abeilles, le plumage des oiseaux, la voix des grands cerfs, vous parlez la langue des fleurs, des mousses, des rochers, des animaux que vous connaissez de près pour pratiquer l'affût depuis des dizaines d'années. Votre œuvre artistique est composée de végétaux et votre écriture allie l'émerveillement face au trésor de la nature et l'effroi devant la disparition de tant d'espèces. Avec vous, toute cette semaine, nous allons vivre au rythme des saisons, des éléments et qui sait peut-être, à la fin de la semaine, devenir animal ou végétal à votre contact. Bonsoir Claudie Hunsinger.
Bonsoir Céline.
Alors Claudie Hunsinger, vous êtes artiste plasticienne et romancière et nous sommes ce soir chez vous en pleine montagne à Bambois dans les Vosges. Bambois, c'est le titre de votre premier livre publié en 1973, mais c'est avant tout votre maison depuis 1965. En quoi ce lieu est-il important pour vous? C'est comme une matrice, un cœur battant?
Ah oui, c'est assez juste, oui, un cœur battant. Au départ, je ne savais pas, nous ne savions pas du tout ce que ce lieu portait en lui. C'est presque par hasard que nous l'avons trouvé après avoir beaucoup cherché. Chercher un lieu qui puisse être aussi un lieu d'exploitation, paysan, agricole. C'était en 65, le moment de la déprise agricole, le moment où les paysans abandonnaient les terres les plus difficiles. Donc une terre difficile, nous en avons trouvé une, c'était ici, voilà, accompagnée d'une maison qui n'avait jamais eu encore de chemin carrossable. Il venait d'être ouvert. Donc une maison qui datait de 1770, complètement pourrie. Voilà, superbe.
Parce que cette maison revient dans tous vos romans, sous différents noms, et vous avez cette formule dans votre catalogue Verbe, vous dites « ici, c'est juste une île en montagne, et cette maison est un bateau ».
Ah oui, la maison a l'air d'un bateau, en effet. Elle a l'air d'un bateau à l'envers, c'est-à-dire la coque dans le ciel, et un triangle posé comme ça, peut-être une sorte de vaisseau spatial venu de l'univers, quelque chose d'assez étrange, ce grand toit posé dans les herbages. Oui, c'était ça, un très grand toit pour la neige, et un lieu que nous n'avons jamais plus quitté. Il faut s'imaginer qu'on est arrivé en 65, et qu'il nous a semblé qu'au départ nous étions presque des prisonniers, prisonniers de l'île, prisonniers de cette île en montagne, ceci parce que nous avions un troupeau, et que le troupeau, on ne peut pas le quitter, et que nous, voilà, c'était quelque chose comme ça. Et petit à petit, il nous a fallu vivre dans ce lieu même, et c'est là que nous avons commencé à explorer ce lieu, et à nous rendre compte que sur place, si on cherchait bien, si on regardait bien, peut-être si on creusait aussi, si on observait tout ce qu'il contenait, ce lieu se transformait en île au trésor. Voilà, et que nous allions pouvoir aussi nous-mêmes être des explorateurs, les explorateurs de ce lieu, explorer sur place des continents. Et nous avons trouvé en effet des continents.
On va parcourir ces continents donc pendant toute la semaine avec vous et retrouver Bambois, comme je disais, présent sous différents noms dans vos romans. Mais on pourrait aussi dire que l'histoire n'a pas tout à fait commencé à Bambois. Elle a commencé à une quinzaine de kilomètres d'ici, à un endroit qui s'appelle Turkheim, puisque c'est là où vous êtes né en avril 1940. Donc Turkheim n'est pas très loin de Colmar. Vous naissez pendant la guerre, dans une région, l'Alsace, qui très vite va être annexée par l'Allemagne nazie, est-ce que vous pourriez nous raconter de quelle manière la guerre est entrée dans votre famille?
Je me souviens des bombardements, oui. Je me souviens de la cave. Je me souviens des lits qui avaient été établis dans la cave. Chacun avait son lit. Mais c'était presque un jeu, d'ailleurs, ces lits. Il fallait les essayer tous. Il y avait le lit près du casier des pommes de terre. Il y avait le lit près des grands récipients qui contenaient les conserves d'œufs Oui, je me souviens de ça. Et puis aussi des bombardements, des bombes, des prières. Voilà, c'était aussi une époque où on faisait des prières et où dont j'étais exclue comme un petit chien parce que je pensais plutôt à m'amuser pendant ces prières. Voilà, des choses comme ça, c'est tout à fait un bazar pour moi, la guerre. J'avais 3, 4, 5 ans, voilà. Mais je dirais que ça ne se limitait pas du tout à Turquem. Moi, pour moi, la guerre, ça a été tout à fait une autre découverte. Il y avait dans la montagne, il y avait une minuscule marquerie dans un lieu qui s'appelle toujours le Kerbols, et où nous allions l'été. Donc je dirais que de trois ans à cinq ans, j'ai découvert le monde bien plus au Kerbols qu'à Turquem même, et qu'au kindergarten, comme on disait, et au village, et dans la famille. Non, c'était au Kerbols, je crois que je l'ai découvert, à Breitenbach aussi. C'est un lieu en haut, tout à fait en haut, d'une montagne tout à fait ronde, complètement ronde. Et je devais avoir, là encore une fois, 3, 4, 5 ans. Et c'est là que j'ai vu mes premières fleurs, les premiers bouquets de fleurs, le premier ruisseau, les premières dinettes à partir des châteaux de noisetiers, peut-être la première vache, les premiers oiseaux. Voilà, c'est là que je les ai rencontrés.
Qui sont des images bien éloignées de la guerre.
Oui, et de la guerre. Je me souviens très bien à Breitenbach ce que c'était la guerre. Le matin, on allait dans la forêt et on cherchait à ramasser des petits rubans d'argent. Les avions, pour brouiller les ondes, faisaient tomber des nuages de petits rubans d'argent. Et on allait dans la forêt les ramasser comme si c'était venu d'un conte. Vous n'en avez pas entendu parler de ces rubans d'argent.
Non. J'évoquais la guerre aussi, Claudine Munsinger, parce que une des spécificités, je dirais, de votre enfance, c'est d'avoir vécu entre deux langues, deux cultures. Je pense à votre mère, Emma, française, votre père, Marcel, qui lui était germanophone. Comment est-ce que ces langues ont pu se marier dans votre enfance? Comment est-ce que vous avez navigué avec ces deux cultures, ces deux héritages?
Eh bien, je dirais que l'alsacien, qu'on parlait à la maison, parce que les jeunes filles qui s'occupaient de nous étaient alsaciennes, et que c'était la langue du pays, la langue aussi de l'école, était aussi pour moi la langue des fessées. C'était aussi avec le Korolöffel, c'est-à-dire la cuillère en bois avec un long manche qui servait à remuer les soupes, qu'on brandissait et dont on vous donnait des fessées. Voilà, pour moi, le Korolev et l'Alsacien sont liés, sont un peu terriblement liés. Mais c'est aussi la langue des jeux, la langue des injures, tête de chien, des choses comme ça. Une langue assez brutale, une langue, pour moi, assez sommaire, et que ma mère n'employait pas. Et avec ma mère, nous apprenions le français, et elle nous faisait, tous les cinq, nous avions commencé un cahier, chacun un cahier, avec son prénom écrit. Même si on avait déjà 3 ans, on écrivait son prénom, on mettait des dessins, on collait ça, et c'était un cahier de trésors aussi, et c'était en français. Donc ma langue, je dirais exclusivement maternelle, ça a été le français, pendant la guerre. Et puis la langue d'enfance, des jeux, d'école, ça a été l'alsacien. Et l'alsacien, je l'ai perdu dès 45, dès que je suis entrée à l'école. Au fond, entre deux langues, oui, mais sans doute, tout de suite au départ, moi je dirais, non, il n'y avait pas seulement ces deux langues. Non, tout de suite au départ, il y avait toutes les autres langues. Il y avait évidemment déjà le bourdonnement des avions. Voilà, l'arme, attention, une attaque d'avion, de bombe. Il y avait ce bourdonnement-là. À Breitenbach, le Clair Ruisseau, le Jean-Sébastien Bach, tout ça, c'est Breitenbach, il y avait le vent. J'ai découvert le vent. Il y avait le bruit du ruisseau, il y avait le langage de la forêt, déjà. Donc toutes ces langues-là, elles sont arrivées en même temps que les deux autres. Et c'est évident que toutes les langues du monde, celles qui maintenant encore m'importent, celles après lesquelles je cours même en ce moment pour essayer de les attraper, ce sont des langues qui, dès l'enfance, étaient là et que j'entendais.
J'ai une phrase en tête, je crois que vous avez écrite dans L'Incandescente, qui dit « Si j'avais un frère, c'était mon frère le vent, et si j'avais une sœur, c'était ma sœur la pluie ». Finalement, de quelle famille étiez-vous ? Est-ce que vous vous sentiez, en tout cas, lorsque l'on lit vos livres, on a le sentiment que vous étiez une enfant à part, en marge, peut-être jugée trop sauvage, reliée à d'autres éléments que, par exemple, la fratrie ?
Je pense que c'est quelque chose dont j'ai voulu m'échapper. Je crois que j'ai toujours voulu m'échapper. M'échapper de tout groupe, de toute appartenance, et effectivement familiale aussi dès le départ. Être l'enfant terrible était une manière de ne pas faire partie de la fratrie, ou en tout cas autrement. Et oui, je ne sais pas pourquoi j'ai été comme ça à l'écoute. Peut-être aussi par une sorte de réconfort qu'on y trouvait, quelque chose de plus doux. Quelque chose de plus silencieux que toute cette folie de langue familiale. C'était compliqué la vie à la maison. C'était une maison un peu bruyante avec des disputes. Et peut-être que c'est aussi une façon d'avoir découvert des sons et des langages plus bienveillants.
Il y avait alors peut-être les sons, un langage bienveillant, mais est-ce que finalement la grande famille aussi que vous vous êtes constituée ne s'est pas faite à travers la langue française, justement ? Est-ce que c'est pas là où vous êtes dit « c'est chez moi » ?
Cette grande famille dont vous parlez, je pense que c'est la littérature.
Peut-être, oui.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est la bibliothèque. Oui, toute cette confrérie qui... Mais ça m'est venu, c'est venu de la bibliothèque de ma mère. Ma mère avait aussi une présence dans cette maison, je dirais un peu à distance. Elle nous observait. Elle avait un cahier, elle aussi, où elle notait la façon dont on s'exprimait, dont on réagissait, un peu comme un entomologiste. Voilà, donc il y avait cette présence de ma mère à distance, et d'une mère qui me semblait recouverte d'un magnifique manteau d'hermine, c'est-à-dire qu'elle était dans cette maison où tout le monde criait, jouait, se disputait, s'injuriait parfois. Elle était une présence à part dans sa bibliothèque et protégée par ce manteau d'hermine qui était la littérature, qui était les livres, qui étaient déjà les poèmes qu'elle nous apprenait.
Qu'est-ce qui faisait de vous cet enfant sauvage qui prenait plus de fessées que les autres ?
Je pense, enfin moi, il me semble que je suis née toute crachée. Je pense qu'on est N-A-I-T, tout crachée, parce que et qu'on est avec à l'intérieur de soi une sorte d'entité irréductible. On est avec cette entité-là et elle nous poursuit toute la vie. Elle est là comme quelqu'un à qui on peut se référer, comme un noyau dur. Et je pense que je suis née comme ça, un peu indisciplinée, irréductible, enfant, avec le goût aussi de parfois faire le clown, de faire rire mes frères et sœurs en faisant des bêtises, oui bien sûr.
Est-ce que c'est ce côté indiscipliné, Claudie Hunsinger, qui fait que, à l'âge de 11 ans, vos parents décident de vous mettre au pensionnat ? Et pas dans n'importe quel pensionnat, puisque vous vous retrouvez à quelques centaines de kilomètres de chez vous, à Briançon ?
Je pense qu'il y a une partie, en partie c'est ça. Je dérangeais, je mettais du désordre dans la maison. On dit même que je dressais mes parents l'un contre l'autre. Mais je ne le pense pas. Je ne pense pas que j'étais responsable de ce qui se passait dans cette maison. Mais j'en étais peut-être le fruit. Mais voilà, oui, on m'a mis à l'écart. On m'a mis, parce que à Briançon, oui, c'était un peu terrible. Mais sans du tout que je me rebelle là. Je ne crois pas que j'aurais pu mettre en question mes parents d'avoir fait ça. Pas plus que je n'aurais pu mettre en question le jour ou la nuit. Pourquoi est-ce qu'il y a le jour et ensuite pourquoi la nuit ? Pourquoi les saisons ? Pourquoi est-ce qu'on met des jupes ? Pourquoi ? Non, je crois que c'était comme ça et on l'accepte. Et je l'ai accepté, mais je pense avec un désespoir profond. dont je me suis rendu compte seulement plus tard. Et en même temps, ce désespoir, cette façon d'être mise à l'écart, cette façon d'être peut-être magnifiquement, je dirais, abandonnée. Il y a quelque chose, parfois, d'être, dans le fait d'être abandonnée, qui comporte avec ses risques quand même toute sa féerie. Je pense à cette première phrase, « Je suis un enfant trouvé ». Et je sais que j'écrivais des histoires là-dessus quand j'étais à Briançon. Oui, et l'écriture, elle est sans doute venue pour essayer de retrouver un lien symbolique entre ma mère, les poèmes qu'elle nous apprenait, la lumière qu'elle émettait, et le lieu d'abandon total, froid, granitique, enfin presque de faim, dont je me souviens. Et le fait d'écrire était une façon de me relier, d'avoir creusé un souterrain, une issue de secours, et quelque chose comme un souterrain qui allait me relier à cette bibliothèque qui pour moi était restée si lumineuse, si ensoleillée. Et c'est comme ça que sans doute j'ai commencé à écrire ce que j'avais appelé un roman. Je ne sais pas du tout d'où m'était venu ce terme parce que j'ignorais encore tout de la littérature.
Vous aviez 11 ans, c'est ça ?
J'avais 11 ans. Je pense qu'à 11 ans, j'en étais encore restée au Blumenmärchen, au conte de fleurs. Les contes de fleurs, ce sont des livres pour enfants, mais plutôt suisses ou germaniques, où l'on représente les fleurs avec des visages, les champignons avec des visages, et il y a des balles entre les fleurs, il y a des... Et je pense qu'une grande partie de mon imaginaire est certainement née dans ces livres-là. Ce sont ces premiers livres-là. Il y a aussi le livre de Marcel Aimé, mais un peu plus tard, Delphine et Marinette.
Les contes du chat perché.
Les contes du chat perché.
Quand vous parlez de cet épisode, c'est dans l'incandescente, il me semble. Vous parlez de vous en disant que vous êtes une petite fille hébétée, en effet, qui ne rentre pas chez elle, qui connaît la faim, le froid, et qui donc écrit ce premier roman. Est-ce que vous vous souvenez du contenu de ce premier roman ?
Oui. J'avais été enlevée par des bohémiens. C'était un petit peu ça, c'était un peu l'histoire de sans famille. Voilà, quelque chose comme ça. Je me souviens de ça, des premières scènes, oui.
Donc l'écriture pour, quelque part, retrouver votre mère, la bibliothèque de votre mère, la langue française, vous ne parlez pas beaucoup de votre père, et votre père dans toute cette histoire, dans cette enfance, qui est-il ? Qui est Marcel ?
Eh bien, il n'était pas là. Il était dans ses camions, c'était un homme d'action, il avait à ce moment-là des carrières de grès, de granit, entrepreneur. J'en parlais avec ma sœur il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. Elle me disait, eh bien, moi non plus, pas plus que toi, je n'ai vraiment de souvenir de mon père. Moi, je ne me souviens pas qu'il m'ait posé une seule fois une question sur ce que je faisais, comment j'allais, qui j'étais. Je crois que j'avais le sentiment que nous étions une portée de petits chiens, à part peut-être l'aîné, ma sœur aînée, mon frère, aînés, les deux aînés. Ensuite, nous avons été une portée de petits chiens.
Et vous dites les deux aînés parce que vous parlez des deux enfants du premier mariage de votre père.
Pas seulement, aussi les autres.
D'accord.
Mon père était veuf, il avait deux enfants quand il a rencontré ma mère. Et avec ma mère a mis cinq enfants au monde. Donc nous étions sept enfants. Et en effet, il y a de toute façon, il y a la merveille qu'est une famille nombreuse. Parce que finalement, nous, les enfants, nous avons eu un monde à part. On ne s'occupait pas trop de nous. Oui, on nous envoyait ici, en pensionnat, ici ou là. Mais il y avait toujours ce temps absolument fabuleux qui n'existe plus et qui s'appelait les grandes vacances, où il y avait trois mois complets où nous étions livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire au monde, dehors, à la fois au jardin, à la fois... À l'autre maison, il y a la maison des Vosges, il y a le Kerbols, et puis il y a la maison de Bourgogne qui est Segrois, livrée au monde avec ce qu'est le monde pour moi, c'est-à-dire, encore une fois, les fleurs, les insectes, les papillons, les livres sur les papillons, l'entomologie, Fabre, les livres sur les oiseaux, les cache-cache, les cabanes. Le fait d'être nombreux, d'être une petite république d'enfants, je dirais, ça a été quelque chose pour tous, pour nous tous, pour toute la fratrie, quelque chose qui est resté au monde merveilleux.
Lorsque vous êtes revenu du pensionnat, vous avez retrouvé votre parrain qui s'appelle lui aussi Marcel. On va voir que ce prénom de Marcel a une importance dans votre vie. Et Marcel vous a qualifié d'enfant poète. Est-ce que c'est là la naissance de la romancière en vous ? Est-ce qu'il y a une date précise avec ce terme d'enfant poète ?
Eh bien, peut-être oui. C'était mon parrain, il était libraire. Le libraire d'une maison d'édition assez à part, puisqu'il s'agissait de la librairie des éditions du Cerf, à Paris. Je pense que lui, c'est lui qui m'a offert Sagesse, de Paul Verlaine, illustrée par Hermine David, de grands anges aquarellés. C'était très beau, ce livre. Et qui m'avait aussi offert, pour la première fois, un livre de Maurice Carême, dès les années 52-53. Lui faisait attention à moi.
Et vous avez commencé à écrire de la poésie à ce moment-là ?
Dès 13 ans. Dès 13 ans, oui, de la poésie. Mais je pense, comme nous tous, presque tous les écrivains commencent par écrire de la poésie parce qu'elle est directement liée à une sorte de source. C'est quelque chose qui coule en nous, comme ça, sans qu'on le recherche. Ça vient, ça vous est donné. La poésie, elle vient à la fois de ma mère, qui est très jeune. Moi, j'étais très jeune. Nous étions tous très jeunes. Et elle nous apprenait déjà les poètes et à apprendre des poésies. Et ça vient de là, c'est-à-dire c'est déjà absolument dès l'enfance. J'ai commencé par la poésie. Au point que je dis parfois que j'ai un squelette qui est fait de poésie. Tellement c'est venu jeune. Tellement je l'ai absorbé jeune. Et à présent, la poésie, elle est toujours là, mais comme dit Roberto Bolaño, que j'adore, que je lis énormément Bolaño, parce que chaque phrase, chaque page de Bolaño contient ce ferment. Lui aussi, il a commencé par écrire des poèmes, ensuite il a abandonné. Mais il a dit qu'il a caché la poésie dans ses romans. Et c'est quelque chose comme ça que je ressens aussi. Je cache la poésie dans les romans. Elle y est, mais la forme elle-même, comme ça, petite, est peut-être aussi une forme presque orgueilleuse, je trouve. Pour moi, je préfère la mettre dans les romans, la cacher, et ne pas dire « je suis poète, j'écris un poème ». Je crois que je n'oserais pas faire ça ou dire cela, peut-être par timidité plutôt, je n'irais pas humilité, je ne suis pas quelqu'un de humble, mais peut-être par secret, par goût du secret, voilà, je la cache.
Est-ce que vous avez gardé, Claudie Hunsinger, ces poèmes de l'enfance ? Est-ce qu'il y a un lien, si vous les relisez par exemple aujourd'hui ? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces poèmes ?
Je retrouve à peine, mais je ne peux pas. Non, il me semble, oui, enfantin. Bien sûr, la source est la même.
Cette source intérieure dont vous parliez ?
La source intérieure, elle est la même. C'est les mêmes préoccupations, toujours. Les fleurs avec lesquelles j'ai parlé en premier quand j'étais enfant. Ces fleurs que, à Briançon, je me souviens très bien, du cœur des narcisses. Briançon, au mois de mai ou de juin, les montagnes, une montagne en particulier, était blanche de narcisses. Et puis il y avait aussi ces gentianes très bleues, d'un bleu incandescent. Et je sais très bien que je leur parlais parce que j'avais encore en tête les visages des contes de fleurs. Voilà, donc elles étaient des visages, elles étaient là, et la présence des fleurs, moi, ne me quitte pas.
Il pourrait peut-être y avoir une surprise, Claudie Hunsinger, à se dire que vous n'avez pas fait d'études de lettres, mais que vous avez fait des études d'art plastique. Alors, pourquoi, alors qu'on parle de poésie, pourquoi est-ce que vous vous êtes tournée vers les arts plastiques plutôt que vers les lettres ?
Eh bien, ce n'est pas moi qui me suis tournée. Les parents, à cette époque-là, décidaient un peu pour leurs enfants. Et oui, j'avais de très très bonnes notes en français. J'écrivais à des poètes, les poètes me répondaient. Mais je n'ai pas fait d'études de lettres, parce que je faisais aussi du grec et du latin. Et que j'étais une élève extrêmement fantaisiste et fantasque. C'est comme pour le piano, le solfège. Je n'ai pas appris le solfège. Donc, je n'ai pas semblé à mes parents quelqu'un d'assez sérieux pour commencer des études de lettres. Et on a trouvé que les arts plastiques, c'était quelque chose qui convenait beaucoup plus à mon tempérament. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue professeur de dessin en 63, à Colmar.
Mais avec des études qui vous ont plu.
Avec des études très particulières, parce que ça se passait à ce moment-là, ça se passait, le professorat de dessin, le CAPES de dessin, se passait dans les classes supérieures du lycée Claude Bernard à Paris, et c'était un enseignement extrêmement académique, très très académique, avec des thèmes que j'aimais beaucoup, particulièrement, par exemple le dessin, les croquis de 5 minutes, les croquis d'une demi-heure. Et également les études documentaires à la gouache, représentées de façon très, très précise, scientifique, documentaire. Aussi bien un hareng que peut-être une boîte d'allumettes, que peut-être une fleur, que peut-être la couverture d'un livre. Et puis aussi dessiner, attraper sur le vif ses camarades de classe. Voilà, donc le dessin, la peinture, oui. Mais tout le reste, c'était très, très académique. Il n'y avait pas de fantaisie possible, ni d'extravagance. Voilà, et dès que j'ai eu mon CAPES, j'ai été même, je dirais, un peu bloquée. Il n'était pas question pour moi que je continue à être professeur ou que je sois artiste dans cette direction-là, très académique. Et quand j'ai commencé à gagner ma vie avec des projets artistiques, ça a toujours été des choses extrêmement brutes, sauvages, qui sans aucune base, sans avoir rien appris comme métier, et directement sauvage, voilà. Et là, j'ai senti que quelque chose se mettait en place, qui me convenait, qui était juste, que c'était ma juste voie, en ne sachant rien. De même, je dirais, pour la littérature. Au fond, j'ai pris pour une bénédiction le fait de ne pas avoir fait d'études littéraires. De ne pas être passé par la théorie. De ne pas être passé par les dissertations, par l'ordre, le raisonnement. La littérature, pour moi, est restée un choix absolument total. Je ne suis allée que vers ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait. Et j'ai toujours pris, et je prends encore pour moi, la littérature. C'est une magnifique jungle sauvage qu'il me faut découvrir, dans laquelle je m'avance sans aucune théorie, mais seulement à partir d'expérimentations directes, encore une fois, et de choix.
Merci beaucoup, Claudie Hunsinger. La suite de notre entretien, ce sera demain à la même heure, où nous parlerons plus longuement de Bambois. Bonne soirée, Claudie.
Bonne soirée, Céline.
C'était À Voix Nue, Claudie Hunsinger. Réalisation Yvon Croisier. Prise de son Florent Layani. Chargé de programme Daphné Abgral. Une série de Céline Duchesnay à réécouter et podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.